Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans Mercredi Mercato. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Il est le George Mendes d'Eurosport, celui qui déniche les talents. Il est le Luis Figo du journalisme et avec lui, ça finit toujours en lucarne. Il est le Cristiano Ronaldo de l'analyse, un travailleur de l'ombre, un bosseur comme on n'en fait plus, le José Mourinho de Mercredi Mercato, l'homme qui n'a pas peur de prendre parti, quitte à froisser ceux qui l'écoutent. Comment ça va, Julien Pereira?
Bah écoute, ça va très bien, je suis très flatté. Je pensais que ces petites présentations elles étaient réservées à Maxime Dupuis, mais du coup, ouais, je suis agréablement surpris.
Et toi, comment ça va ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, comme c'est les vacances, et bah, Cyril Morin, bah, il est tranquille à Annecy, pépère, chez papa, maman, tranquillou pendant qu'il y en a qui bossent. Donc déjà, je te félicite, je te tire mon chapeau, Julien Pereira, car tu es un travailleur, un grand travailleur et un homme de talent. On va le voir tout de suite dans cette émission.
Et d'ailleurs, on ne dira pas aux gens dans quelles conditions tu enregistres cette émission, mais toi aussi, il faut te féliciter parce que vraiment, ce n'est pas évident.
C'est très compliqué.
Depuis un grenier.
Depuis un grenier, exactement. Et non pas Clément Grenier, un autre grenier qui est franchement… je suis dans une cave quasiment. Là, je suis dans une cave. Donc, si vous m'entendez, tout va bien. C'est le principal. Julien, on va parler mercato évidemment parce que ça s'ouvre dans 2-3 jours ce mercato. Et on va démarrer cette émission en parlant de Mauricio Pochettino et du PSG, Julien.
Ouais, on va parler de, évidemment, c'est le sujet du moment parce que Mauricio Pochettino arrive au PSG, c'est pas encore officiel mais ça va bientôt l'être. Et y a un mercato qui se profile et qui dit entraîneur qui arrive dit aussi potentiel recrue. C'est le mécanisme habituel quand un entraîneur arrive. Forcément, on parle notamment de ses anciens joueurs et on parlera de nos confrères d'Eurosport UK qui ont quelques petites informations à ce sujet.
Deuxième sujet, on parlera de l'Olympique Lyonnais, de Memphis Depay. Lui peut discuter avec un club dès vendredi, puisqu'il sera en fin de contrat dans 6 mois du côté de l'Olympique Lyonnais. On va se poser la question, Depay à Aouar, est-ce que Lyon doit rattraper les ventes qu'il n'a pas fait cet été dès cet hiver, ou est-ce que Lyon doit garder toutes ses forces vives parce qu'il y a peut-être un titre à aller chercher? Et enfin, on terminera avec Lionel Messi qui lui aussi est face à un gros dilemme, Julien.
Oui, un gros dilemme. Lui, il a donné une interview, on sait que toutes les semaines, ça change autour de Lionel Messi. Il a donné une interview, il a évoqué certaines pistes. Alors, il n'a pas parlé du PSG, il a plutôt esquivé le sujet Manchester City. Mais il y a une autre opportunité, c'est peut-être la MLS. On va en parler, on va voir tout ce qu'il peut y avoir derrière ça. Et évidemment, évoquer les élections au FC Barcelone qui auront lieu fin janvier.
Allez, on est parti pour 25, 30 minutes, peut-être 35. On n'est pas avec Maxime, donc il y aura moins de verbiage, il y aura moins de choses inintéressantes. Avec Jap, ça va droit au but. Donc, si vous êtes fidèles de nos émissions, restez avec nous. Jap, ça file droit, ça va vite. C'est pas toujours juste ce qu'il raconte. Donc, quand même, checkez quand même de votre côté sur l'ordinateur ou sur votre smartphone s'il raconte pas que des bêtises. Jap, on part tout de suite du côté du Paris Saint-Germain et on sait donc… Paris va donner son destin à un nouveau coach, Mauricio Pochettino, qui a entraîné pendant de très longues années Tottenham, les Spurs de Tottenham. Et ce mercato d'hiver qui s'ouvre donc vendredi va peut-être voir du côté du Paris Saint-Germain arriver quelques anciens joueurs de Mauricio Pochettino. Et on pense notamment au premier d'entre eux. Il était déjà lié du côté du Paris Saint-Germain avant que Pochettino signe. C'était un des maîtres à jouer des Spurs sous le mandat du coach argentin. On pense évidemment à Eriksen, Julien.
Ouais, Eriksen, je crois même que c'était le joueur le plus utilisé par Pochettino à son époque Tottenham. Eriksen, effectivement, tu l'as dit, c'était déjà une piste bien avant que Tuchel prenne la porte. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a été envoyé à l'Inter Milan parce qu'il était un petit peu le blues du côté de Tottenham.
Il était en fin de contrat, il faut se souvenir du côté de Tottenham. Il est parti en janvier alors que son contrat s'achevait au mois de juin, si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça, et le problème, c'est qu'à l'Inter, ça ne se passe pas très bien non plus. Et Eriksen, c'est toujours un formidable joueur, c'est un très bon maître à jouer. On sait que Le Paris Saint-Germain a des besoins au milieu de terrain. Et donc, forcément, Paris s'est intéressé aux Danois depuis plusieurs mois. Et avec l'arrivée de Pochettino, bah, ça colle, puisque Pochettino adore ce joueur-là. Et effectivement, dès cet hiver, on pourrait voir Eriksen arriver au Paris Saint-Germain.
Il faut être clair que l'Inter ne va pas retenir Eriksen. Hein. C'est 8 matchs de Serie A. C'est sur le banc face à Gladbach et Shakhtar Donetsk, les deux derniers matchs de Ligue des Champions. Il est rentré 5 minutes, je crois, les 5 dernières minutes contre Donetsk. Donc, les deux matchs les plus importants, hein, l'Inter Milan, puisqu'il s'agissait de se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Donc, on ne compte plus sur Eriksen du côté d'Antonio Conte. On ne peut plus en entendre parler. Et Eriksen, Jap, il pourrait faire le lien. Il pourrait permettre à Paris de sortir de sa Neymar dépendance dans le jeu, en tout cas, hein, puisque ça ne vous a pas échappé. À toi non plus, Julien, ça n'a pas échappé que le Paris Saint-Germain, quand même, dans le jeu, le circuit préférentiel et le circuit unique, c'est quasiment on attend que Neymar fasse des miracles et on voit ce qui se passe derrière. Et Eriksen pourrait permettre à Paris d'avoir une nouvelle option. Alors oui, il y a Di Maria, mais Eriksen, qui a un milieu un peu plus axial, pourrait permettre à Paris d'avoir d'autres options dans son jeu en cas de blessure ou même voilà, un autre circuit préférentiel avec Eriksen. Ça montre, alors c'est peut-être pas le secteur où Paris a le plus de besoins. On en a souvent parlé ici, notamment avec Cyril. Moi, je pense qu'un défenseur central qui fait l'autorité, je pense que ça ferait beaucoup de bien au Paris Saint-Germain derrière Marquinhos et Kimpembe. Mais ça peut permettre à Paris d'avoir une autre identité dans le jeu et d'avoir une menace qui ne se résume pas à Neymar quand le Brésilien est là.
Oui, d'autant qu'on s'attend à ce que Pochettino refasse des choses un petit peu plus classiques avec le 11 du PSG. Avec Tourelle, c'était un petit peu baroque, pour reprendre un terme que tu aimes beaucoup, Martin. Voilà, Neymar avait été replacé au cœur du jeu. On a vu Marquinhos, évidemment, devant la défense. Là, on s'attend quand même à ce que Neymar retrouve une position un petit peu plus latérale, sur le côté gauche. On s'attend à ce que Di Maria joue à droite. On s'attend à ce que, vraiment, Pochettino revienne sur quelque chose de traditionnel et avoir un joueur qu'il connaît bien, remettre un joueur qu'il connaît bien au cœur du jeu, bah, ça peut justement lui permettre de mettre sa patte, si je puis dire, sur le jeu. Et donc, pour lui, ça ressemble aussi à une solution idéale. En fait, ça paraît être une solution idéale pour tout le monde. Paris a des besoins au milieu, tu l'as dit, pour faire le nombre notamment, mais aussi pour apporter quelque chose de nouveau. On pense notamment aux blessures de Marco Verratti. Eriksen a besoin de se relancer encore une fois et Pochettino a besoin d'entrée de jeu, de mettre sa patte.
Et on ne l'a pas dit, Eriksen, il a 28 ans. Donc, c'est pas un joueur en fin de course, c'est pas un one shot, c'est pas un joueur qui va te rendre service jusqu'au mois de juin. C'est un vrai investissement et c'est un vrai joueur sur lequel, enfin, faut quand même se souvenir d'Eriksen à Tottenham parce que cette année 2020 a fait beaucoup de mal, lui a fait beaucoup de mal en termes de, bah, voilà, de réputation, de, voilà, il s'est un peu enlisé. Mais à Tottenham, c'était un des meilleurs joueurs de Première Ligue quand il était à Tottenham, Eriksen.
Absolument, c'est un passeur formidable. Il est capable de créer des occasions et tout seul. C'est vraiment un très, très, très bon joueur. Et c'est typiquement le type de joueur dont le PSG a besoin parce que ce n'est pas un joueur qui va demander, des milliers de cents. Lui, ce qu'il veut, c'est jouer finalement, c'est avoir du temps de jeu et c'est pouvoir s'amuser, entre guillemets, s'épanouir. Et typiquement, Paris peut lui offrir ce cadre-là.
Et Paris a déjà peut-être la monnaie d'échange qui pourrait complètement compléter le transfert d'Eriksen, puisque l'Inter regarde avec un œil gourmand Paredes. Pas certain que Paredes soit conservé par Pochettino. En tout cas, dans ce secteur-là, je ne suis pas sûr que Paredes soit aussi essentiel qu'un Eriksen quand il arriverait. Donc, en tout cas, ça pourrait être un… Alors moi, je me méfie toujours des échanges, hein, parce que surtout la presse italienne nous parle tout le temps d'échanges. Ça arrive très rarement. Mais dans cette économie un peu sclérosée, dans cette économie qui cherche aussi, on est en plein Covid, on est en présence de clubs dont les économies sont fortement impactées, hein, même celle du Paris Saint-Germain. La valeur joueur reste quand même une valeur refuge et Paredes pourrait permettre à Paris de ne pas engager des frais que Paris ne pourrait pas engager dans cette période-là. Et donc, en se séparant de Paredes, ça pourrait permettre à tout le monde d'être gagnant en fait dans ce deal-là.
D'autant que Paredes connaît la Serie A et que la Serie A connaît Paredes, parce que Paredes y a passé plusieurs saisons, notamment à la Roma où il avait été très convaincant. Donc effectivement, ça peut matcher.
Donc on parle d'Eriksen. Ça, disons que c'était le portrait robot parce qu'il était déjà sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Il y en a un autre qui était déjà qui a déjà été lié du côté du PSG. Il y aurait même eu 3 offres de prêt cet été du PSG à Tottenham pour Dele Alli, selon la presse outre-Manche. Dele Alli, 24 ans, qui est lui aussi en plein marasme du côté de Tottenham. Il a joué moins de 80 minutes cette saison en Première Ligue. C'est dire si Mourinho ne compte absolument pas sur lui. Dele Alli sous Pochettino, alors ça s'est moyennement terminé. Malgré tout, ça restait un homme important hein, du Tottenham de Pochettino. Alors oui, la fin d'aventure, il y a eu quelques petits passages sur le banc. Malgré tout, Pochettino le connaît parfaitement bien. Dele Alli, ça reste aussi un super joueur. Après, il y a une abondance de biens. Si on a Eriksen, Neymar, Di Maria, Mbappé, voilà, il y a beaucoup de joueurs dans le secteur offensif. Est-ce que Dele Alli pourrait jouer en relayeur? Ça peut être une question qui se pose et ça pourrait ouvrir d'autres perspectives pour le mercato du PSG.
Ouais, alors il y a d'autres joueurs, je pense qu'on va en parler après, Martin, qui jouent à Tottenham et qui sont aussi évoqués au Paris Saint-Germain. Pour parler de Dele Alli, moi je ne suis pas sûr que ce soit forcément une très très bonne idée, tout simplement parce que tu l'as dit, il joue très peu. Et on l'avait vu avec Pochettino déjà, il y avait eu beaucoup de hauts mais aussi beaucoup de bas. Pochettino avait essayé de le défendre, il avait essayé de le maintenir, ça ne s'était pas toujours très bien passé, c'est difficile pour lui d'être régulier. Mourinho, ça s'est très bien passé quand il est arrivé pendant quelques semaines et puis ça a complètement plongé ensuite. Donc ça montre quand même que, bah, au bout d'un moment, ce n'est pas forcément que la faute de l'entraîneur, c'est aussi le joueur qui doit se remettre en question. Tu l'as dit, il a 24 ans, ça fait déjà plusieurs années qu'on parle de lui comme peut-être le futur leader de l'équipe d'Angleterre, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc, moi, j'ai de gros doutes sur le plan sportif autour de Dele Alli. Après, pour faire le nombre, tu l'as dit, au niveau offensif, je pense qu'en termes de nombre, il y a déjà assez de biens au Paris Saint-Germain. Donc, je pense que si le PSG doit tenter autre chose, ce serait plutôt au milieu de terrain, voire dans le secteur défensif, plutôt que Dele Alli.
Alors justement, donc toutes ces informations nous proviennent de nos confrères hein, d'Eurosport UK et qui nous parlent. Alors ça, c'est à plus long terme. Hein, donc ce serait cet été. Donc cet hiver, on parle d'Eriksen et potentiellement d'Ali, même si vous avez compris que Eriksen c'est un peu plus avancé qu'Ali. Il y a trois autres noms qui se détachent pour cet été. Là encore, il faut regarder en fonction des besoins du Paris Saint-Germain. Alors le premier, c'est Serge Aurier. Pourquoi Serge Aurier déjà? Parce qu'il ne lui reste plus qu'un an et demi de contrat. Donc cet été, il ne lui restera plus qu'un an de contrat. Parce qu'on connaît aussi l'attachement viscéral hein, de Serge Aurier, qui l'a encore dit il y a quelques semaines que son club de cœur, c'était le Paris Saint-Germain. Et que s'il fallait retourner au Paris Saint-Germain, il n'y aurait pas de problème. Et aussi parce que ce poste d'arrière droit, alors Florenzi, c'est plutôt une recrue bien sentie. Mais il est en prêt. L'option d'achat, elle est de 9 millions d'euros. Prêt donc jusqu'au mois de juin prochain. Derrière Dagba, il a un peu de mal. Alors il a été blessé, mais il a un peu de mal aussi à percer. Aurier, honnêtement, on va être franc, ferait pas de mal à ce 11 du Paris Saint-Germain. Il y a un doute sur Aurier et Paris, sur les tentations parisiennes, etc. On l'a vu, hein, il est déjà venu à Paris et ça a été quand même fait plus de bas que de haut. Il y a deux autres noms et Jab, je te laisserai rebondir sur ces trois noms-là. On parle aussi d'Harry Winks, donc le milieu de terrain de Tottenham, qui a perdu sa place de titulaire cette saison avec José Mourinho. Et alors ça, c'est la grosse cote quand même, Hugo Lloris, qui était évidemment un des hommes de base de Pochettino, mais avec Navas, ils ont le même âge, hein, je crois 34 ans. Avec Navas, ça paraît compliqué d'avoir Lloris. J'aimerais toi ton avis sur ces trois noms-là, Julien Pereira.
Bah, Lloris, je pense qu'on peut expliquer le sujet assez vite. On ne voit pas qui serait gagnant dans l'histoire. Lloris est un cadre et même le leader à Tottenham. Tu l'as dit, le même match que Keylor Navas qui donne pleine satisfaction au PSG. Donc on ne voit pas le PSG s'investir parce que ça coûterait beaucoup d'argent quand même.
Navas qui est quasiment la meilleure recrue depuis 2017 du Paris Saint-Germain, hein, depuis Mbappé Neymar.
Et on ne voit pas le PSG prendre des risques, ou en tout cas s'investir sur un dossier qui finalement n'apporterait pas une plus-value énorme, même si Lloris fait partie des meilleurs gardiens du monde, tout comme Keylor Navas. Pour Serge Aurier, je suis un petit peu comme toi, je suis entre le oui et le non parce que effectivement le PSG a de gros besoins au poste de latéral droit, notamment au poste de latéral gauche aussi, mais c'est le cas au poste de latéral droit. Florenzi, c'est très bien, mais c'est aussi c'est sur un fil finalement parce que c'est un prêt et qu'on ne sait pas ce qui va se passer sur la suite et surtout il y a rien derrière. Donc pour du plus long terme entre guillemets, en tout cas pour une vision à 2 ou 3 ans, Serge Aurier, ça peut être très bien, même si je ne le vois pas forcément comme le titulaire indiscutable qu'il faut au PSG. Et pour Harry Winks, bah là, c'est tout le problème d'avoir recruté un joueur comme Danilo Pereira et de l'avoir un petit peu gâché, si je puis dire, gaspillé, avec Thomas Tuchel qui l'a un petit peu baladé partout, qui du coup il y a une grosse perte de confiance pour ce joueur-là, et du coup il y a un vrai besoin aujourd'hui au poste de milieu défensif. Donc Harry Wings, pourquoi pas, pour faire le nombre aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Martin.
Oui, c'est ça, c'est pour faire le nombre. Là, on est soit sur des joueurs qui seront des joueurs de complément, j'ai envie de dire, sauf Hugo Lloris, mais Hugo Lloris, pour le coup, il n'y en a pas besoin au poste de gardien. Donc, ça reste quand même Eriksen, sans doute, à la fois le plus proche et le plus compatible dans l'effectif tel qu'il est aujourd'hui du côté du Paris Saint-Germain. Et puis, ça tombe bien parce qu'il est en perdition totale du côté de l'Inter Milan. Donc, comme à chaque fois, il y a beaucoup de noms qui sont associés à l'arrivée de Pochettino, comme à chaque fois qu'un nouvel entraîneur arrive dans un club, à ceci près que tout de même, ce n'est pas Pochettino qui fixe la politique sportive du Paris Saint-Germain, jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à leur âge, ça sera peut-être différent dans quelques mois, c'est Leonardo qui garde les manettes du mercato. Donc Pochettino, il ne va pas arriver et dire moi je veux tous mes anciens de Tottenham avec qui je m'entendais bien. C'est pas comme ça que ça marche. Eriksen, ça tombe bien parce que c'était déjà une cible. Dele Alli, pourquoi pas en termes d'opportunité. Mais Julien, il ne faut pas s'attendre à un entraîneur qui arrive avec des joueurs plein les valises.
Oui, et je pense qu'il ne faut peut-être pas s'attendre non plus à ce que tout se passe bien, à l'inverse de ce qui se passait entre Tuchel et Leonardo, parce que Pochettino, en Angleterre, à Tottenham, c'était un manager, il avait des pouvoirs sportifs. On sait qu'au Paris Saint-Germain, c'est Leonardo qui veut garder la main sur le mercato, sur les affaires courantes, entre guillemets, parce que les gros dossiers, c'est le Qatar qui les gère. Et Pochettino, ça va être intéressant de voir comment va se passer l'entente avec Leonardo, parce que lui, on l'a vu à la fin avec Tottenham, après la finale de Ligue des Champions perdue face à Liverpool, souviens-toi, il avait réclamé des moyens, il avait réclamé à ses dirigeants que Tottenham passe un cap, notamment sur le marché des transferts. Il ne l'avait pas eu et c'est comme ça que la relation s'est finalement effritée à la fin. Donc, ça sera intéressant de voir comment tout ça va se passer avec Leonardo, parce que je pense que Pochettino, ce ne sera pas le gentil toutou, entre guillemets, qui dira oui à tout ce que son directeur sportif lui demandera.
Oui, tu le disais, il avait l'habitude à Tottenham de fixer aussi la politique sportive du club. Donc, ça va être un équilibre à trouver entre les deux hommes. On sait que Leonardo a été un peu fragilisé aussi ces derniers temps, du côté de Doha, qu'on se posait des questions aussi sur son avenir, pas seulement sur celui de Thomas Tuchel. Le départ Tuchel peut être vu comme une victoire de Leonardo. L'arrivée de Pochettino, tout ça porte quand même plus la marque de Doha que la marque de Leonardo. Donc, il va falloir faire attention à tout ça. Il va falloir scruter attentivement la relation entre les deux hommes, comment ils arrivent à travailler ensemble. Ce mercato d'hiver, ça va être un bon test pour les deux. Et peut-être que sur Eriksen, ça pourra démarrer comme le terrain d'entente parfait entre Leonardo, parce qu'on sait que Leonardo, ses réseaux sont plutôt italiens, il vient de l'Inter Milan. Eriksen, ancien joueur de Pochettino à Tottenham. Bref, il réunit un petit peu tous les critères, notre ami Eriksen.
On a fait le tour, Julien. On a fait le tour. Ça ressemble au compromis parfait. Voilà, je voulais finir sur ça. C'était ma petite phrase.
Et alors, il faut résoudre aussi une question essentielle. Julien, je dis Pochettino, tu dis Pochettino. Comment ça se passe ?
Alors, je propose que Cyril, qui connaît très bien l'Argentine, tranche, mais pour moi, c'est Pochettino.
Non, mais peut-être, mais moi,
Tout comme on a pris l'habitude pendant des années de dire Mascherano, alors que pour moi, c'est Mascherano.
Ok, donc vous pouvez retrouver Julien Pereira en cours en ligne, donc tous les samedis après-midi, 16h-18h, en direct de Buenos Aires. On dit Buenos Aires, c'est ça, hein ? Espèce d'escroc. Mec, il est allé autant en Argentine que mon grand-père et il se fait passer pour un gaucho. Donc, on va très vite se calmer, Julien. Cyril, tu me manques déjà, je te le dis. On vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez retrouver cette émission sur Facebook, si vous l'aimez en intégralité pour voir nos bobines. Julien Pereira est très mal coiffé aujourd'hui, donc je vous conseille d'aller voir cette émission sur Facebook. Vous pouvez retrouver les meilleurs moments, et ça va être compliqué d'en sélectionner avec Julien dans l'émission, les meilleurs moments de cette émission sur eurosport.fr. On remercie Simon d'ailleurs et Anaïs pour les visuels. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission uniquement en audio sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et comme ça, vous n'êtes pas obligé de supporter nos bobines fatiguées par des fêtes qui ont été longues, par des repas qui se sont éternisé. Voilà, donc sinon, c'est uniquement le podcast. On continue, Julien, avec le deuxième sujet, l'Olympique lyonnais.
Oui, on va parler de Lyon, du leader de Ligue 1, parce que c'est le cas, parce qu'il y a beaucoup d'actualités sur le mercato aussi. Et il y a beaucoup d'enjeux sportifs, on l'a dit, avec ce classement, avec cette très bonne demi-saison de l'Olympique lyonnais. À Lyon, Memphis Depay arrive en fin de contrat dans 6 mois. Beaucoup de très grands clubs s'intéressent à lui. Il y a le FC Barcelone, il y a aussi la Juventus Turin. Que doit faire Lyon avec Memphis Depay? Est-ce qu'il doit céder? Est-ce qu'il doit faire tout faire pour le retenir? Je te pose la question, mon cher Martin.
En fait, la question, c'est est-ce que Lyon doit compenser le mercato estival qui n'a pas été à la hauteur des espérances, des souhaits de l'Olympique lyonnais. Je parle uniquement en termes financiers, hein, parce que les recrues sont bien adaptées, ça se passe plutôt bien. En revanche, je vais prendre les 4 dernières saisons de l'Olympique lyonnais. Lyon a vendu pour 120, 90 et 160 millions d'euros en 2017, 2018 et 2019. Et 2020, ils ont vendu pour 49 millions d'euros. Et on sait que le modèle lyonnais, même si c'est un modèle, moi que je trouve le modèle le plus vertueux de Ligue 1, parce que ils ont beaucoup diversifié leur entrée d'argent, ils sont propriétaires de leur stade, etc. Malgré tout, la crise que traverse le football, l'économie mondiale en général et le football en particulier, notamment le football français avec l'arrêt de Mediapro, etc., plonge les clubs français quand même dans un certain marasme économique. Et Lyon a besoin de ventes, et notamment rattraper donc le trou de l'été dernier. Ce qui est certain, c'est que Oussem Aouar, qui devait partir, qui était à deux doigts de partir, n'est finalement pas parti. Memphis Depay non plus. Donc, on est sur deux joueurs qui pourraient un petit peu rattraper ce trou de l'été. Mais Memphis Depay, il ne lui reste que 6 mois de contrat. Donc, aujourd'hui, Depay, il vaut entre 5, 10, 10 millions d'euros, grand maximum. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Aouar, on peut l'estimer à 35, 40 millions d'euros. Mais est-ce qu'aujourd'hui, un gros club européen est capable de mettre cet argent-là sur un mois de janvier et avec des perspectives qui sont aujourd'hui encore assez incertaines? La Ligue des Champions, le tarif d'entrée, c'est 15 millions d'euros. Donc, Lyon reçoit déjà 15 millions d'euros. Ensuite, c'est 3 millions d'euros par victoire, 1 million d'euros, je crois, par match nul. Et là, on ne parle pas des droits TV qui peuvent doubler la somme. Et une qualification pour les huitièmes, les quarts, les demi, etc., ça peut rapporter très, très, très gros. Je crois que Lyon, si je ne dis pas de bêtises, a reçu 90 millions d'euros sur la dernière campagne où ils ont atteint les demi-finales. Donc, garder Depay et Aouar, c'est aussi se dire on a plus de chances d'atteindre notre objectif initial qui, au-delà du titre, est celui du podium et de la qualification en Ligue des Champions. Le calcul, pour moi, il est assez simple. Parce qu'aujourd'hui, Julien, si tu te sépares de Memphis Depay, tu te sépares de la clé de voûte de ton attaque, ce qui aujourd'hui est quasiment le point fort de cette Olympique Lyonnais, la fameuse KTM que tu connais bien.
Absolument. De toute façon, je pense que sur le cas de Depay, l'incertitude vient plutôt de lui. Je pense que Lyon n'a aucun intérêt à le céder cet hiver parce que, évidemment, ça rapportera presque rien ou pas grand-chose. Et surtout, ça risque de briser cette série au niveau sportif, cette série de bons résultats. Et je pense que Lyon ne doit surtout pas prendre ce risque-là parce que casser cette attaque-là, ça serait terrible d'un point de vue sportif. Le problème, c'est qu'on a des doutes sur sa volonté à lui, Depay. Est-ce qu'il est prêt à attendre 6 mois de plus après avoir attendu si longtemps pour se relancer, pour retrouver un grand club? Si la Juventus, si le FC Barcelone, même si c'est moins probable, vient toquer à la porte cet hiver, est-ce qu'il sera prêt à dire non, je préfère rester 6 mois, attendre la fin, attendre l'été prochain pour partir?
Après, je te dirais, c'est quand même Lyon qui a les cartes en main. La fin de contrat de Memphis Depay, c'est au mois de juin prochain. Si Lyon veut le conserver, ils peuvent le conserver.
Ils peuvent le conserver, mais on connaît aussi les pressions des joueurs, et notamment d'un joueur comme Memphis Depay, qui a toujours soufflé le chaud et le froid sur sa volonté, sur son souhait de rester ou non à Lyon, sur comment il se sentait à Lyon, etc. On ne sait pas s'il y a aussi des accords verbaux, parce que ça marche comme ça aussi, notamment avec Jean-Michel Aulas. On sait qu'il est capable de retenir ses joueurs sur certaines périodes en leur promettant un bon de sortie sur le prochain mercato. Donc, moi, j'attends de voir notamment si un club comme la Juventus Turin vient s'intéresser à lui. Je pense que ça pourrait être plus compliqué pour Lyon de le retenir. Après, sur la question, est-ce que Lyon doit tout faire pour retenir? La réponse est clairement oui. D'un point de vue sportif, c'est logique. Et d'un point de vue économique, ça ne rapporterait pas grand-chose de le faire partir cet hiver.
Oui, Lyon doit prendre le risque d'être peut-être un peu moins costaud financièrement et économiquement, j'allais dire à court terme, en retenant Aouar et en retenant Depay, pour faire le pari du podium, voire du titre. Dans quelques mois, on voit qu'il y a un Lyon cohérent, on voit qu'il y a un Lyon qui a trouvé enfin son visage, qui a trouvé son 11. Remettre tout ça à plat pour, allez, si tu vends même Depay et Aouar, ça te fait 45-50 millions d'euros. Oui, ça soulagera les finances et c'est clair que Lyon en a besoin, comme tous les clubs français, parce qu'un Groupama Stadium vide, ça coûte très cher à l'Olympique Lyonnais, hein, très très cher à l'Olympique Lyonnais. Mediapro qui s'en va, ça coûte très cher à l'Olympique Lyonnais. Mais à un moment, je pense qu'il faut, qu'il faut faire le pari du mois de mai. Voilà, faut faire le pari du mois de mai et d'un potentiel podium.
Ouais, et d'un point de vue sportif, je dirais que ça serait plus facile, entre guillemets, en tout cas moins difficile, de laisser partir Aouar cet hiver. Le problème, c'est que on a la quasi-certitude qu'on vendra pas aussi bien Aouar cet hiver qu'on ne le vendra l'été prochain, tout simplement parce qu'on est encore en plein dans la crise économique. Et que repousser l'échéance à l'été prochain, ça se donne une chance de finalement profiter, pourquoi pas, d'une relance sur le plan économique.
Oui, et puis surtout, il sort d'un début de saison, ça va mieux,
solide.
Mais qui n'est
pas extraordinaire.
Qui n'est pas extraordinaire, c'est peut-être le plus mauvais moment pour vendre Aouar aujourd'hui, sur ce mois de janvier. Le meilleur moment, c'était peut-être en août dernier, je parle d'un strict point de vue sportif, où il atteint quand même demi-finale de Ligue des Champions et où franchement, sur le Final Eight, il a un niveau assez monstrueux. Là, il est retombé dans l'anonymat de la Ligue 1 et aussi dans des prestations qui sont un peu plus quelconques, même si ça va mieux depuis quelques semaines. Mais malgré
tout, avec des petits soucis comportementaux aussi.
Avec des petits soucis comportementaux. Sa première sélection en équipe de France, ce n'est pas forcément super bien passé. Il n'a pas été rappelé ensuite par Deschamps, il a fallu des forfaits, etc. Bref, Aouar, sa cote, elle n'est pas au sommet aujourd'hui. Attendre le mois, et moi je suis persuadé qu'il va faire une deuxième partie de saison fantastique, Aouar, s'il reste à Lyon. Attendre le mois de mai prochain me semble plus sage d'un point de vue sportif et même d'un point de vue économique. Tu as raison de le souligner, Julien.
Oui, absolument. Et je pense que de ce point de vue-là, on peut peut-être faire confiance à Lyon. Comme ce que tu l'as dit, c'est un club qui est très bien géré. Et je pense qu'ils sont capables de prendre compte de ces éléments-là, de savoir que c'est peut-être mieux d'attendre pour finalement récupérer plus d'argent sur le transfert d'Aouar.
Et alors, il n'y a pas que Memphis Depay qui est en fin de contrat, cher Julien Pereira, et ce sera notre troisième sujet, on terminera là-dessus. Il y a aussi l'un des deux meilleurs joueurs du monde, hein, Lionel Messi, qui va pouvoir, dès vendredi, discuter avec d'autres clubs. Donc ça, c'est quand même assez dingue déjà. C'est quand même assez fou de se dire que vendredi, Manchester City, le Paris Saint-Germain, Chambéry, tous les clubs du monde pourront discuter avec Lionel Messi, dont le contrat se termine le 30 juin prochain. C'est assez dingue. Et alors, Lionel Messi, il a donné une interview à la Sexta la semaine dernière, le week-end dernier, me semble-t-il, pour faire part un peu de ses souhaits, ses désirs. Il n'a pas dit grand-chose. Voilà, s'il fallait s'attendre à des exclusivités, il faudra encore un petit peu patienter. Mais malgré tout, il a dit qu'il voulait rejoindre et jouer aux États-Unis à la fin de sa carrière, en MLS, pour avoir, on va dire, conjugué l'expérience de vie avec la découverte d'un nouveau club. Et Julien, ça pose question. Se dire, Lionel Messi ne terminera, quoi qu'il en soit, pas sa carrière du côté du FC Barcelone. Est-ce que ça ouvre une porte à un autre club? C'est ce qu'on croit savoir du côté de l'Angleterre et du Télégraphe aujourd'hui, qui nous dit que cette confession de Messi renforce Manchester City dans son idée de départ, puisque vous savez que le groupe City, Football City Group, a plusieurs clubs, dont Manchester City, mais aussi un club en MLS qui tombe plutôt bien, à savoir New York. Et donc, que le plan de City, c'est de proposer un contrat de 5 ans à l'Argentin, 3, allez, on va dire 2 ou 3 ans du côté de Manchester en Première Ligue, pour lui offrir la Première Ligue, une nouvelle occasion d'enrichir son palmarès, notamment en Europe et en Ligue des Champions, qui est le but ultime de Lionel Messi, et de le laisser partir ensuite en MLS tranquillement, finir sa carrière. Julien, c'est un vrai atout. New York dans la manche de City.
Ouais, on parlait de bon compromis tout à l'heure. Là, c'est pareil, ça ressemble à un très bon compromis parce que quand on voit Lionel Messi actuellement, c'est difficile de l'imaginer partir tout de suite en MLS. En tout cas, ça paraît trop tôt en fait par rapport à ses performances sportives. Et donc effectivement, la méthode City, lui proposer un contrat longue durée pour d'abord le faire venir en Angleterre et ensuite l'envoyer en MLS. S'il le veut vraiment, ça ressemble au meilleur compromis. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a nos confrères espagnols de AS qui disaient que l'Inter Miami de David Beckham était aussi très intéressé à l'idée de réunir Lionel Messi et Luis Suarez, qui lui est parti à l'Atlético. Mais là, on parlait d'un horizon 2022, donc ce n'était pas pour tout de suite. Sauf que maintenant, à l'instant T, et dans les 6 prochains mois, il faut que Messi décide de son avenir à court terme. Et son avenir à court terme, d'un point de vue sportif, ça ne peut pas être la MLS, tout simplement parce que ça ne peut pas lui apporter les défis, et en tout cas les trophées, qu'il veut et qu'il souhaite retrouver.
Mais est-ce que ça peut être le FC Barcelone ? Ça, c'est la vraie question. Alors, j'en ai déjà beaucoup parlé ici, mais ce que je vois du FC Barcelone et ce que j'ai encore vu mardi soir me conforte dans l'idée qu'aujourd'hui, le FC Barcelone, tu parlais de la MLS, de ne pas y aller tout de suite pour gagner des trophées, etc. Hier, à la fin du match, il y a quand même l'entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, qui a dit que c'était cuit pour gagner la Liga. Est-ce que Lionel Messi peut rester dans un club qui fait, dès le mois de décembre, une croix sur son championnat ? Parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui à l'FC Barcelone. Qu'est-ce qui reste du FC Barcelone ? Il reste le FC Barcelone, le nom FC Barcelone. La légende, peut-être le plus grand club du 21e siècle, ça se discute avec le Real Madrid. Les souvenirs qu'on en a, qui sont très frais, et Lionel Messi. Mais Lionel Messi, il ne peut pas tout faire. Et il se rend bien compte que ce FC Barcelone-là, même s'il est qualifié pour la 8e de finale de Ligue des Champions, mais aujourd'hui, Julien, s'il fallait que tu mises tes économies sur une victoire du FC Barcelone…
Même, d'ailleurs.
Pas tant que ça, m'a-t-on dit. Sur une victoire du FC Barcelone en Ligue des Champions, mais ce serait du suicide. Je pense que ta femme t'en voudrait beaucoup, et ton chien également. Je veux dire, aujourd'hui, c'est absolument… Aujourd'hui, il ne reste rien du FC Barcelone. C'est un collectif et c'est un club qui est en ruine. Et on parle du FC Barcelone, des ambitions du FC Barcelone, que par le prisme de ce qu'on a connu ces dernières années. Lionel Messi en a conscience de ça. Je ne vois pas comment aujourd'hui il peut rester dans ce club. On peut se dire, peut-être qu'avec un mercato, c'est quand même le FC Barcelone, tu peux faire venir des joueurs. Aujourd'hui, le Barça ne peut même pas se payer un Depay à 5 millions d'euros. Donc, comment on peut imaginer que ce Barça se reconstruise ? En plus, Messi, il ne veut plus parler de reconstruction. Là, il a passé la trentaine. Aujourd'hui, il veut un club. Aujourd'hui, qu'il soit, dès l'instant où il l'enfile le maillot, qu'il soit compétitif. Et ce n'est plus le cas du FC Barcelone. Je suis désolé. Donc, pour moi, son horizon passe par un départ, fatalement.
Moi, je suis assez d'accord. Je pense aussi sur un départ, notamment vers Manchester City. Ma seule question, c'est jusqu'où va la patience de Messi ? Est-ce que si le futur président du Barça, qui sera élu fin janvier prochain, lui propose un projet sur 2 ou 3 ans en lui disant…
Mais il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps.
Justement, je ne sais pas si lui, il est encore capable d'attendre, parce que ça sera forcément
plusieurs
années.
Et un projet sans un rond. C'est ça surtout.
Exactement. De toute façon, il faudra un miracle pour qu'il reste au FC Barcelone, ça c'est sûr et certain. Si ce miracle doit venir, il viendra des élections présidentielles, de l'élection présidentielle, parce que là, on va se faire taper sur les doigts par Laurent Verne. et si un président est effectivement capable de lui proposer un projet sur 2-3 ans, en repartant de la Masia, avec des économies plus saines, en réduisant la masse salariale, peut-être que oui, effectivement, Messi pourrait rester. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, le plus probable, c'est effectivement un départ à Manchester City. Et on en revient à ce qu'on disait au début. Ça ressemble quand même au bon compromis, City.
Non, parce que qu'on lui parle de Xavi ou de la Masia, mais imagine, il faudrait un an supplémentaire quasiment pour remettre un projet de jeu en place. Le seul argument,
pour nous, d'un point de vue extérieur, parce qu'on se dit il a 33 ans, effectivement, il faut attendre.
Le seul argument, c'est son attachement. Oui, le seul argument, c'est l'attachement. Mais l'attachement, l'été dernier, il voulait partir quand même. Alors, je veux bien que Bartomeu concentrait tous les reproches de Lionel Messi, mais entre l'année dernière au même moment et cette année, on a changé de coach. Le président, on sait que ce ne sera plus le même. Et qu'est-ce qu'on en sort ? Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste un FC Barcelone qui ne peut même plus gagner la Liga, qui ne se bat même plus en Liga, qui fait des matchs nuls contre des sangrades chez lui grâce à des buts d'Ousmane Dembélé qu'on salue comme le sauveur. Enfin, on en est là aujourd'hui du FC Barcelone. Donc, on est peut-être sur le pire FC Barcelone de l'ère Messi aujourd'hui.
C'est certain. Ce qui est sûr, c'est que si les 6 premiers mois d'un point de vue sportif, avec des bons résultats, aurait pu aider Messi à rester, finalement, c'est peut-être tout le contraire qui s'est passé, parce que c'est une vraie catastrophe. On ne sait pas vraiment où est le Barça sur le plan du jeu, sur le plan des résultats, Il y a des très bons, il y a du très mauvais aussi. On l'a encore vu hier. Donc, effectivement, là, je pense que Messi, pour l'instant, je vois pas ce qui peut lui faire changer d'avis finalement. Il faudra attendre encore un mois au minimum et voir ce qui se passera ensuite avec le nouveau président, même si, encore une fois, ben, je pense que la tendance, c'est toujours un départ.
Et après, sur les arrivées, enfin, les nouveaux clubs qui sont susceptibles d'accueillir Lionel Messi, il n'y en a pas 50. Je parlais de Chambéry tout à l'heure, ça va être très compliqué du côté de Chambéry. Non, ce sera Paris ou Manchester City. Pour moi, ou un club de MLS, hein, mais comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est trop tôt. Manchester City lui propose la Premier League puis la MLS avec un salaire confortable. Paris, pour l'instant, aura du mal à lui proposer quelque chose, mais si un des deux s'en va, et je pense surtout à Kylian Mbappé, peut-être pourra lui proposer quelque chose. Donc moi, ça me paraît beaucoup plus avancé parce que Premier League versus Ligue 1, New York, en plus dans le jeu de Manchester City, aujourd'hui, ça paraît en tout cas très avancé quand on sait ce qui s'est passé cet été aussi. Et c'était Manchester City hein, cet été pour Lionel Messi. Bref, ça va être très compliqué pour le Barça, mais aussi pour Paris.
On est bien d'accord. Je pense que tu as fait un point très clair et très complet, mon cher Martin.
Merci, n'en fais pas trop non plus, car tu sais que tu restes le remplaçant et quand Cyril reviendra, ben, il reprendra sa place. Allez, c'est pas non plus la peine de trop en faire, Julien.
J'ai hâte de voir s'il dit Pochettino ou Pochettino.
Mais on s'en fout. Moi, je dis Pochettino et puis voilà, et je le dirai jusqu'à la fin de ma vie. Voilà. Il faudra me bâillonner, Julien Pereira. Il faudra me bâillonner. Merci, Julien, d'avoir fait une petite pause entre la dinde et le champagne pour nous apporter ton expertise éclairée sur le mercato. On remercie Simon Farvac derrière la caméra. On remercie Anaïs également pour les visuels. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mercredi Mercato. En attendant, allez nous mettre des étoiles sur Apple Podcast. Partagez cette émission pendant les fêtes puisque vous ne pourrez pas vous voir tous faire des réveillons à des centaines de personnes. Ce que je vous propose de faire, c'est de partager l'émission digitalement. Voilà, avec vos proches. Je pense que ça va être fantastique. Faites un 31 décembre uniquement sur Mercredi Mercato. Je peux vous dire, la soirée s'annonce rocambolesque. Voilà. Merci Julien.
Merci à toi.
Bonne fête de fin d'année.
Bonne fête à toi aussi. Bonne fête à tous.
Exactement. Bonne pastèche de fin d'année. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao tout le monde.
Salut à tous.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.